de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quand on arrive d'une part avec Gabin, d'autre part avec un roman de Simenon, on est assuré de tourner le film, disait Gilles Grangier dans Les mardis du cinéma qui viennent. Gabin, qui avait tourné 10 romans de Simenon, et pas seulement dans le rôle du commissaire Maigret. Était-il aisé de lui succéder ? Gabin a tué Maigret au cinéma, disait un autre participant à l'émission. Les suivants ne font pas le poids. Quand on pense à Maigret, on pense à Gabin. Pourtant, rares sont les cinéastes qui n'ont pas eu le projet de tourner leur Simenon ou leur Maigret. Et là encore, peu importe la fidélité et la trahison éventuelle aux grands conteurs et créateurs d'atmosphère. Il ne faut pas chercher dans les films forcément ce qu'on trouve dans les romans. Mardi du cinéma, Simenon au cinéma, par Pascal Charpentier, réalisation Claude Giovannetti, première diffusion sur France Culture le 24 mai 1994.
Parisien ?
Oui. François Combe.
Ici, on m'appelle Kay. Je me suis faite. On se fait à tout. Vous habitez Paris ?
J'habitais. Du côté de la Muette.
Oh, moi, Auteuil. Nous étions presque voisins.
Waiter, I'd like some strawberry shortcake, please.
You can have anything you want, ma'am.
Il est gentil. Vous êtes ici depuis longtemps ?
6 mois. Et vous ?
Oh, je ne sais plus. Hier, des siècles. C'est un peu écœurant, hein ? C'est drôle, je commande toujours des choses que je n'aime pas. Remarquez, ça c'est bien parce qu'il y en a beaucoup. Un gâteau prétexte. Prétexte à rester. On mange, le temps passe. Et puis toute cette crème, ça rappelle la Suisse. Il faut boire du lait, il faut manger de la crème. Vous connaissez la Suisse ?
Là, Trois chambres à Manhattan, c'est un film que j'aime beaucoup. Et avec une actrice que j'aime particulièrement, qui est Annie Girardot, qui est une très très grande actrice et qui là était au mieux de sa forme d'une certaine manière. Et aussi en regardant La Veuve Coudert, je me souviens d'un plan qui m'avait beaucoup fait rire, c'est que on voyait Simone Signoret au milieu de vieilles femmes du village en train de faire la lessive, si je me souviens bien. Et ça, c'est un plan que Simone Signoret n'aurait jamais dû faire. Parce que le vieillissement d'une actrice n'a rien à voir avec le vieillissement d'une paysanne. Et que ben là, ça se voyait, quoi.
Gérard Mordilla.
En fait, j'en ai vu pas mal. Hein. Maigret en un piège, Maigret l'affaire Sien-Fiacre, tout ça, j'ai vu. Le président, ouais, je suis stupéfait de voir que c'est adapté d'une chose de Simenon. Et voilà une photo du sang à la tête. Mais il y a des, je vois des films avec Claude Rennes, j'ai jamais vu. Il y a des tas de choses incroyables, quoi. Henri Verneuil. Ça, j'ai jamais vu Simenon. Brolanda, ça, j'ai pas vu. Panique, j'ai pas vu non plus. Ah tiens, et je vois, Simenon rêve d'adapter lui-même la tête d'un homme au cinéma. Ça aurait été une curiosité que Simenon tourne une adaptation et fasse un film tel qu'il l'imaginait.
De la rue, il repère la dernière fenêtre éclairée, une nuit. Il pénètre dans la villa.
Oui, mais comment ?
Ah, c'est à vous d'élucider ce point, commissaire. Cherchez du côté des domestiques. Voilà donc Hartin dans la villa. Il monte directement à la chambre de Madame Anderson. Elle crie, il la tue. Ici entre en jeu un élément psychologique. Hartin est un criminel d'occasion. Rien dans ses antécédents ne le préparait au meurtre. Devant le cadavre, il s'affole, il tâtonne dans l'obscurité, s'enfuit, ayant oublié qu'il est venu là pour voler. Le corps de Madame Anderson glisse et quelque temps après tombe sur le sol. Au revoir, commissaire.
Au revoir. Mais Hurtin n'est pas l'assassin.
Impossible. Qui est-ce donc ?
Je ne sais pas, moi, mais je cherche.
Je ne vous suivrai pas dans vos rêveries.
Les faits sont là, mais vous en tirez des conclusions un peu hâtives, monsieur le juge.
Et pas d'observation à recevoir. Tenez-vous-en à votre rôle.
Mais je n'en suis pas sorti, moi.
Faites votre métier, celui de fournir des coupables à la justice.
Oui, aussi d'empêcher qu'elle ne commette des erreurs.
Démissionnez de la police et faites-vous avocat,
la tête d'un homme, du vivier. Haribor. Oh, il y en a d'autres, il y a des vieux films, il y a La Nuit du Carrefour. La Nuit du Carrefour, c'est le brouillard. Ils ont mis tellement de brouillard artificiel qu'on voit rien. Mais enfin, c'est un film d'une poésie. Non, il y a beaucoup de films qui m'ont frappé, j'ai beaucoup d'images en tête.
Pierre Assouline.
Même parmi les plus récents, Betty de Chabrol. La plus belle image du Betty de Chabrol, c'est la première. C'est ce bistrot où ça commence, qui s'appelle Le Trou, je crois. Et ça commence là, et c'est glauque. Mais c'est poisseux. C'est ça, Simon. C'est très poisseux. Et puis il y a Monsieur Hir aussi. Les deux Monsieur Hir. Panique de Duvivier, et puis celui de Patrice Lecomte. C'est Michel Blanc regardant par la fenêtre. Mais dans l'autre, dans Panique, c'est plutôt quand Michel Simon est sur la gouttière et qu'il va tomber. J'essaie de penser à d'autres films qui m'avaient frappé.
À quoi pensez-vous, Maigret ?
Oh, je pense au château, à Mathias Sandorf et au cycle génial Lucifer. C'est Monsieur le Comte qui m'avait offert mon premier livre, Mathias Sandorf et ma première bicyclette. Un vélo rouge avec un guidon de mi-course, j'avais eu la mention bien au certificat d'études. Et c'est cette année-là que vous êtes arrivé au château, vous étiez fiancé. Et puis il y a eu le mariage avec les tables sur la pelouse.
Avril 17, j'avais 18 ans. Je me souviens d'un homme à moustache qui m'a souhaité la bienvenue, votre père. Et d'un petit garçon aux yeux bleus qui me regardait. Vous sentiez votre colonne il y a 10 mètres.
Oh ! Je m'en étais inondé. Ce jour-là, je me souviens, vous portiez une robe blanche à fleurs. Par la suite, d'ailleurs, vous n'avez porté que des robes claires. Bon, puis, je peux bien vous le dire aujourd'hui, je me cachais dans les buissons du parc pour vous regarder passer.
Confidence en vaut une autre. Je suis passé un peu exprès. Vous vous cachiez mal, mon petit Maigret. Il y avait toujours une touffe de cheveux blancs qui dépassait les buissons. Quand vous avez quitté le château pour le collège, à la mort de votre père, en octobre ou novembre, le 19...
Très exactement le 18 septembre. Je n'ai pas de mémoire, mais j'ai de l'ordre.
Ah ben oui, il y a tous les Maigrets. Il y a des Maigrets de Delannoy. La Maigret à l'affaire Saint-Fiacre. C'est Maigret qui retourne au château où son père était régisseur. Et ce château, en fait, c'est là où Simenon a été le secrétaire du marquis de Tracy. Et il retourne sur les lieux de son enfance. C'est très émouvant. Et là, il y a un meurtre. La comtesse de Saint-Fiacre a été assassinée. Et c'est vraiment très, très bien. Très, très bien, mais on voit l'époque, on voit les années 50. Et il y a...
Mais vous la prenez, mon affaire ?
Aucune idée.
Ah. C'est parce que je n'ai pas d'argent.
Ah, parce qu'en plus, vous n'avez pas d'argent.
Si vous croyez que ça se trouve comme ça, de l'argent, si j'en avais eu, j'aurais pas...
Oui, assommé une bonne femme.
Oh, elle est pas morte.
Ben, heureusement. Vous avez vos parents ?
Ah non, j'ai personne. Mais on dit que quelquefois, quand vous voulez bien, c'est gratuit.
Oui, en cas de malheur. L'image de l'avocat Jean Gabin, face à Brigitte Bardot, image célèbre, quand elle relève ses jupes. Une image tellement osée, tellement subversive pour l'époque, on imagine. Elle a beau être doudou quand même. Enfin, elle se met nue devant lui, quoi. C'est...
Autant que vous en profitiez avant qu'il me mette en prison. Non. Ça ne vous dit rien.
Asseyez-vous.
On a l'impression que chaque cinéaste se doit de tourner son Simenon pour rentrer dans la galerie du cinéma français.
Jean-Baptiste Barognan.
Vous savez, un mutatis mutandis, c'est un peu comme à une certaine époque, bien sûr, il y a des exceptions, mais chaque grand cinéaste américain devait faire son western. Même Mankiewicz l'a fait. Enfin, voyez-vous, qui Dieu sait s'il est considéré comme un cinéaste intellectuel aux États-Unis. Parce qu'il y a très peu de grands noms qui sont passés à côté de Simenon. Hein. Avant, il y a eu Renoir, il y a eu Duvivier, il y a Melville. Dans les cinéastes de la génération plus récente, il y a Chabrol, il y a Lecomte, Tavernier. Donc il y en a pas mal. Donc j'attends que Bertrand Blier en fasse un. Claude Miller devrait en tourner un. C'est tout à fait proche de lui aussi. Je pense qu'il y a pas mal de très bons cinéastes français, mais peut-être que c'est ils vont le faire, parce que j'ai un peu le sentiment que c'est un passage obligé, comme pour acquérir ses lettres de noblesse en cinéma, ou son examen de respectabilité cinématographique, il faut avoir tourné un Simenon.
Le gris, celui du maître, lui portera Valentin.
Bien, monsieur.
Bon, je vais voir si madame Ménabé n'a besoin de rien. Fais attention avec tes mains, attention au chapeau. C'est bizarre, ça. Voir si madame l'abbé n'a besoin de rien. La porte. Tu fermeras le gaz, Valentin.
Et dans les films récents, je trouve effectivement que Les Fantômes du Chapelier, ma chose, est une très réussie.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que le personnage du chapelier est d'une humanité triste, extraordinaire. C'est Monsieur Tout-le-Monde feutré, c'est Monsieur Tout-le-Monde avec ses démons intérieurs, avec son impossibilité de communiquer, avec ses malaises, c'est tout Simenon, ça. C'est-à-dire le petit homme qui, sous des dehors de respectabilité... quelqu'un qui, en fait, se demande pourquoi il est là, pourquoi il vit, et qui vit l'amour par procuration, par substitution, et qui, au fond, et ça, je crois que Chabrol le rend très bien, cherche chez les autres les propres failles qui sont les siennes, et ben, il se heurte à un monde uniquement d'apparence où les autres ne dévoilent pas leurs failles, alors que nous, lecteurs et ou spectateurs, savons parfaitement que ces failles existent. Je crois que c'est une des grandeurs de Simenon, ça, justement. De mettre en exergue des personnages qui sont fissurés, qui sont fracturés. Ils se heurtent à d'autres personnes qui donnent l'apparence qu'ils ne le sont pas, alors que fondamentalement, ils le sont aussi. Ce qui les différencie aussi, également, c'est le fait que eux vont jusqu'au bout de leur fissure, par exemple jusqu'au crime, ou à l'abandon. Ils s'en vont, ils partent, on ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi. On ne sait pas très bien pourquoi ils vont ailleurs. Ils ont besoin de fuir. C'est parti, vous savez. Je trouve que Simenon, à cet égard, est formidable. C'est quelqu'un, quand on est comme ça dans des états de déprime soi-même, on dit il faut qu'on parte. Et puis en fait, ça ne sert à rien, parce qu'on transporte avec soi les malheurs et les drames. Donc c'est parce qu'on change de lieu qu'on trouve. Dans les années faire chaud, c'est ça aussi. Cette fuite. Beaucoup de personnages de Simenon fuient, hein, dans le sens physique du terme. Alors naturellement, ils fuient. Souvent un problème matériel, ils fuient un malaise, mais enfin, en fait, ils se fuient eux-mêmes. C'est aussi un des aspects les plus importants, la fuite de Monsieur Monde, par exemple. Quel titre ? Pourquoi s'appeler Monsieur Monde ? C'est comme le petit saint, moi je trouve que dans leur simplicité, les titres de Simenon sont grandioses.
Je ne rentrerai pas tard. Repose-toi bien. Tu fermeras, Valentin.
Oui, monsieur.
Je ne rentrerai pas tard, Louise. Valentin fermera.
Bien, monsieur.
Ça va bien.
Ma première idée, quand je me suis décidé à faire des films, ma première idée était d'adapter un bouquin de Simenon, justement, qui était Le Fils Cardinaux.
Claude Chabrol.
Et j'avais vu Simenon à ce moment-là, et qui avait été très gentil, et qui m'avait dit textuellement, écoutez, comme je ne m'intéresse absolument pas à ces problèmes d'argent, je suis très dur, alors je vous laisse à l'œil toutes les options que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, mais si un jour on me fait une proposition ferme pour acheter le Fils Cardinaux, je vous préviens, mais je le vends. Bon, très bien, c'était de bonne guerre. Hélas, c'était sans doute un peu tôt et je n'ai pas fait le Fils Cardinaux. Et le film a été tourné par Grangier avec Gabin sous le titre Le Saint à la tête, qui est un film assez intéressant d'ailleurs, mais qui n'avait pas de rapport avec le Fils Cardinaux finalement.
Gilles Grangier, pourquoi avoir adapté Simenon c'était en 55-56 hein.
Alors là, si vous faites appel à ma mémoire, on est foutu. Hein.
Ah bon alors, c'était en 55-56
oui, 50...
C'était Simenon.
C'était Simenon. Ben, vous savez, les romans de Simenon, c'est merveilleusement vivant. Et pour le cinéma, c'est une bonne source. Enfin,
c'est un choix personnel.
Oui, c'est un choix personnel. Le titre, c'était Le Fils Cardinaux.
Pourquoi est-ce que vous avez changé de titre?
C'est le producteur qui nous a dit Le Fils Cardinaux, ça fait un peu Bibliothèque Rose. Il le sent à la tête, il a trouvé que c'était un petit peu plus... J'ai eu beaucoup d'ennuis avec Gabin, d'ailleurs, qui m'a dit, c'est une connerie, pourquoi on... Au mieux appeler ça Cardinaux, c'est bien, Simenon.
Le sang à la tête, ça veut dire quoi?
Ça veut dire la colère subite, pas le déséquilibre mental, si vous voulez, mais la rogne, quoi.
Un coup de gueule,
c'est
hein.
Ça, oui. Un coup de gueule et un coup de cœur.
Alors, comment ça s'est fait? Comment...
Eh bien, vous savez, au début, déjà, quand vous arrivez chez un producteur avec Gabin d'un côté et un roman de Simenon, c'est très rare que la porte s'ouvre pas. Alors, ça a été assez facile. Ça a été assez facile à monter, mais le film était un petit peu compliqué à faire.
Pourquoi?
Parce qu'il y avait des scènes très vigoureuses, très... C'est pas commode. Mais j'ai essayé de le faire en tout cas le plus réel possible, hein, en essayant de faire un reportage romancé, si vous voulez.
Qu'est-ce que ça veut dire, réel?
Réel, sans imagination. J'ai pas amené beaucoup de ma part d'auteur là-dedans. J'ai été fidèle à l'histoire et j'ai demandé à Michel de me faire aussi des dialogues dans ce sens-là, quoi. C'est très quotidien comme déroulement.
C'était du noir, c'était du blanc?
C'était du noir et blanc, oui. Ah oui, c'était encore du noir et blanc.
Identité judiciaire, ici commissaire Maigret. Il y a un crime, Hôtel des Flandres, rue de Compiègne. Hôtel des Flandres, rue de Compiègne, c'est à la gare du Nord. Alors je vous attends, chambre 17 au premier étage, dépêchez-vous.
Simenon disait toujours que les acteurs sont les meilleurs juges d'un roman. Quand il avait fini un roman et tout, il aimait bien savoir ce qu'en pensait tel ou tel acteur.
Claude Gotter.
Simenon, c'est pas un raconteur d'histoire, c'est pas un homme qui va vous fourbir des intrigues extrêmement compliquées. C'est pas ce qui l'intéresse, Simenon, c'est l'homme nu, comme il a dit, donc le personnage. D'où la fascination également. Pourquoi nombre d'acteurs, et parmi les plus grands, notamment en France, commencé par Gabin, qui a quand même tourné 3 Maigret et 7 Simenon, parce qu'il a tourné 10 romans de Simenon, c'est qu'évidemment, pour un acteur, il y a des personnages absolument extraordinaires.
John Curtis et Madame Montréal, Canada.
Oui, monsieur l'inspecteur.
Alors, d'après vos fiches, ils sont arrivés il y a 3 semaines.
Ah, mes fiches sont en règle, monsieur l'inspecteur.
Je vous dis pas qu'elles sont pas en règle. Qui est-ce qui couche là?
Le mari. Elle était ici et lui à côté, chambre à part, quoi.
Et où est-il, le mari?
Parti, monsieur l'inspecteur.
Où ça?
Ça, je ne sais pas.
Et depuis quand?
Depuis lundi.
Il a emmené des bagages?
Je ne crois pas, non.
Il vous a dit qu'il s'absentait?
Il m'a rien dit du tout.
Alors vous, dites-moi ce que vous savez.
Je ne sais rien, monsieur l'inspecteur.
Attention, il y a eu un crime chez vous et c'est grave. Alors rassemblez tous vos esprits parce qu'on sait toujours quelque chose. Lundi, vous l'avez vu sortir.
Oui, et le lendemain matin, Lucienne m'a dit le 17 n'est pas rentré. Et sa femme a l'air inquiet.
Qui c'est, Lucienne?
C'est la petite qui fait les chambres.
Parlez-moi donc un peu du mari.
Il était petit, pas costaud, avec de mauvais yeux.
Comment ça, de mauvais yeux?
Il portait des lunettes. Des lunettes noires, qu'il retirait jamais, même pas le soir.
Tiens, vous êtes bien sûr de ça?
Oh oui, oui, même que ça m'avait frappé.
Votre Lucienne, là, elle habite l'immeuble?
Oui, au 7e.
Dites-lui donc de venir me parler.
Bien, monsieur l'inspecteur.
Je pense qu'il a tué Maigret. Je pense que...
Gabin a tué Maigret.
Je pense que Gabin a tué Maigret au cinéma. Je pense que tous ceux qui sont venus après lui, je le dis leur sans honte, que ce soit Jean Richard ou Bruno Kremer, ne font pas le poids. Et que même dans l'imagerie populaire, lorsqu'on pense à Maigret, on pense à Gabin. Je trouve qu'il y a une identité, comme si le rôle avait été fait pour lui. Ça, c'est mon opinion. Quand je lis un roman de Maigret, j'ai toujours tendance à voir Gabin évoluer. Et puis, dans les autres rôles aussi, je trouve que c'est un des acteurs qui est le plus proche de l'univers de Simenon. C'est vrai, donc, il y a une dizaine, effectivement. Il y a La vérité sur Bobé Donge, qui est un film remarquable. Et puis, surtout, je trouve que dans Le cas de malheur, il est formidable. Je trouve que c'est cette espèce de tentation qu'il a. Si tant est que ce en soit une, pourquoi pas, d'ailleurs. Le brave homme, il pouvait. Non, mais dans sa respectabilité, dans ses rapports avec sa femme, c'est bien. Bon, c'est l'histoire dans l'absolu est banale. Hein, c'est l'histoire de l'homme 40-50 ans qui succombe à une jeunette. Ça s'est lu des milliers de fois, ça s'est entendu des milliers de fois. Et le miracle veut que la travailleur de Simenon et dans le film, ça prenne une réalité. C'est ça, je trouve, les grands films et les grandes œuvres. C'est de raconter des histoires que tout le monde connaît et on a l'impression de les lire et de les voir pour la première fois. C'est ça la grande révélation, je crois, de Simenon. C'est d'être le premier à avoir fait apparaître dans l'histoire de la littérature la médiocrité comme, je dirais, valeur romanesque.
Et comme une valeur.
Et comme une valeur tout court. C'est-à-dire que c'est ce type de personnage que nous trouvons dans l'œuvre de Simenon a toujours existé, mais il a été le premier à le révéler. Et c'est ça qui fait, je crois, la grandeur de Simenon, c'est qu'il est le premier à avoir donné une existence romanesque au petit homme, à l'homme petit. Il y a un très beau roman, justement, qui décrit admirablement bien ça, qui est L'Assassin. C'est un roman qui n'a pas été porté à l'écran, qui est un des tout premiers romans, et qui est l'histoire, ça se passe en Hollande, au bord d'un canal, c'est admirable comme décor, au bord d'un canal, comme ça, avec des rangées de ces peupliers là, interminables, qu'ils ont tous, un peu comme dans une chanson de Jacques Brel, là, Le plat pays. Et c'est un avocat qui a raté sa vie, qui tous les soirs rentre chez lui, et la première chose qu'il fait, c'est de sauter sa bonne. Qui consent, qui est laide en plus. C'est ça qui est. C'est extraordinaire d'érotisme. C'est d'une violence inouïe. Et puis un jour, sur le chemin du retour, il va tuer. Et il va avoir avec sa bonne un rapport de plus en plus étonnant. Et alors, on voit très bien cette bonne consentante, malgré elle. Parce qu'elle a aussi une autre éducation, parce que c'est son maître, parce que c'est elle qui la nourrit. Alors, il monte les soins dans sa chambre. Enfin, c'est effarant. Je trouve que c'est une violence sexuelle beaucoup plus grande que tout autre film, tout autre livre du même acabit. Voilà l'érotisme dissimulé et violent.
Et ça se finit comment, l'histoire de l'assassin ?
Alors, il se fait arrêter. Je ne sais plus exactement. Moi, j'ai gardé. Je n'ai pas relu ce livre, je devrais pourtant. J'aime bien ces romans de cette période-là. Ce sont les premiers Gallimard. C'est-à-dire les romans de 1935-36. Il y a Cour d'assises aussi. Il y en a. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il se tue ou si c'est la femme qui le tue. Il y a un deuxième meurtre à la fin. Mais ce que je vois, et ça m'est resté, c'est ce type qui marche long de ce canal tous les soirs et qui monte dans cette chambre de bonne où l'attend une vraie bonne. Thank you.
Et l'ours en peluche ?
Alors, l'ours en peluche, c'est une histoire que je voulais beaucoup faire. Et puis, je sais pas bien encore ce qui s'est passé avec l'ours en peluche d'ailleurs, mais ça sont les méandres du cinéma auxquels j'ai rien compris depuis 40 ans. J'aimais bien l'histoire de ce type qui semble arriver à une espèce, une ascension sociale tout à fait réussie, même familiale, même s'il s'entend plus avec sa femme, peu importe, il a des enfants, etc. Il a un équilibre de vie, il fait un beau métier, hein, donner la vie à des bébés, enfin donner la vie. Leur permettre d'accéder à la vie de gynécologue, c'est formidable. Et puis qui, à cause d'une petite erreur, qui ne se pardonne pas, probablement parce qu'il est quand même dans un état de fatigue avancée, à mon avis, il faut quand même être déjà assez âgé et commencer à être fatigué pour commencer à faire un bilan comme ça, et que tout d'un coup, une petite chose comme ça, enfin, c'est pas une petite chose, il a participé finalement à la mort de quelqu'un, par dédain, par indifférence. Ce qui m'intéressait dans le truc, c'est que ça se passait, moi j'avais fait se passer en une nuit, et ça le prenait le soir, et le matin il était mort. C'est-à-dire il allait au-devant de la mort volontairement, parce que cette petite faille qu'il avait laissée passer dans sa vie à propos d'une jeune femme, en même temps, et d'ailleurs, et moi il y avait double question, il y avait l'histoire de cette faille vis-à-vis d'un être humain qui s'était suicidé à cause de lui, à cause de son indifférence, hein, à cause d'un manque de regard porté sur quelqu'un à un moment où il faudrait, mais il y avait aussi la notion qu'il avait peut-être loupé un bonheur possible avec cette fille. Il y avait donc ces deux choses-là qui le taraudaient, et toute la nuit il errait pour essayer de trouver, lui, du secours, chose qu'il n'avait pas su donner aux autres, et il ne le trouvait pas. Il allait voir des amis, un psychiatre, il allait voir un secrétaire, il allait voir des gens de rencontre, même fortuites dans la nuit, qui pouvaient lui apporter un secours par une phrase, un mot qui explique qu'il le condamne pas en tout cas. Et il ne le trouvait pas. Et en fait, il allait à la mort au petit matin et il mourait. Moi, je dis toujours Simenon, et c'est pour ça que ça correspond bien à moi, parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup vécu allongé, très malade, et j'ai toujours vu les choses comme à travers une vitre. J'ai l'impression que Simenon, c'est pareil. Moi, tous ces personnages, tout ce qui se passe, je le vois comme s'il était lui derrière une vitre et qu'il regarde. D'ailleurs, il y a très souvent des regards aux fenêtres chez Simenon.
Pierre Granier de Fer, pourquoi Simenon ? Pourquoi une, deux, trois, quatre adaptations de Simenon ?
On va partir des livres, parce que j'aime lire. Hein. J'ai eu beaucoup de temps pour lire, parce que j'ai souvent été très malade. Et que parmi les écrivains que j'ai pu découvrir comme ça, il y a eu Simenon. Et Simenon, alors là, ça a l'air d'une plaisanterie, même un peu d'une critique, mais ça n'en est pas une. C'est un écrivain très particulier dans la mesure où il y a deux lectures possibles. Pour Jean fatigué, il y a une lecture un peu en survol qui est en général des énigmes policières avec une touche psychologique et des personnages amusants. Et puis il y a, on s'aperçoit si on l'a lu comme ça, que ça passe le temps, que ça vous aide à vous endormir la nuit, que ça vous intéresse mais ça vous fatigue pas. Et puis il y a une seconde lecture, pour Jean bien portant, qui elle est beaucoup plus fatigante. Parce qu'en fait, si on se met à prendre fait et cause pour les personnages, on dort plus. Parce qu'on s'y retrouve, parce qu'ils sont tourmentés, parce qu'ils ont une faille épouvantable à chaque fois, parce que c'est désespérant, parce que c'est quelquefois sordide, mais c'est une réalité sordide. Et donc cette seconde lecture, je ne la recommande pas aux gens malades. Mais Dieu soit loué, quand on est malade, on fait que la première lecture. Voilà pourquoi j'ai lu Simenon, et attentivement, donc en deux lectures. Et puis de là, quand on est cinéaste, on cherche son inspiration où on peut. Hein. C'est soit dans la rue, soit autour de soi, soit dans ses multiples lectures. Et comme je suis plutôt un lecteur qu'un observateur, j'ai été vers Simenon.
Vous voulez un verre de vin ?
Henri. Henri. Alors, tu peux pas répondre quand on t'appelle, vieux sournois. Tiens, mets-le dans l'enclos et occupe-toi des vaches. C'est mon beau-père, il est sourd. Il parle que quand ça lui chante. C'est pas vrai?
Polonaise, ça.
Mais ma grand-mère était polonaise. Vous cherchez du travail?
Oui.
Ben ici, il y en a. En tout cas, au moins pour 3 jours.
Vous vivez seule avec votre beau-père?
Oui, je suis veuve. On m'appelle la veuve Coudert. Et vous, c'est comment?
Jean.
Je donne 6 francs. Enfin, des fois, 8.
La Simenon, en l'occurrence, je pensais pas en l'adapter, moi, personnellement, parce que je trouve qu'on en avait fait beaucoup avant, surtout des Maigret, qu'il y en avait 2 ou 3 d'assez réussis, et je me voyais pas les réussir mieux. Et puis c'est après La Horse. J'ai fait La Horse avec Jean Gabin, qui n'était pas un Simenon, hein, qui était un film policier qui se passait à la campagne, et auquel j'ai donné beaucoup plus d'atmosphère, en fait, parce que moi, les films policiers, je suis pas très fortiche pour ça. Mes gangsters, ils ont toujours l'air idiots avec un revolver. Et puis, on s'était bien entendu avec Gabin, Dieu soit loué, le film a marché, et Jean m'a demandé si j'avais pas un sujet après. Et là, tout d'un coup, Simenon m'est revenu, et puis j'avais un sujet, j'avais un des livres qui m'avait frappé, parce que probablement c'est un de mes fantasmes, la vieillesse ensemble, dans un couple, et j'ai pensé au chat. Et quand je l'ai fait lire à Jean, je me souviens, il l'a lu, et il était assez futé, hein, faut pas croire. Mais en même temps, il a fait qu'une lecture du chat, lui aussi, à son tour. Il a lu très vite, il n'avait pas lu Simenon. Il a trouvé ça très bien. Mais en fait, il y a lu la querelle de 2 vieux bourgeois, bien français, qui peuvent plus se piffer à cause d'un animal. Il n'y a pas tellement senti l'histoire d'amour déchirante, le drame. Après, il l'a vu. Alors donc, j'ai fait le chat parce que je venais de faire un film avec Gabin et tout d'un coup, je me suis dit, il n'y a que lui qui peut jouer ça. Et puis, on a trouvé Signoret et le couple me fascinait. Après, ça coule. C'est-à-dire que quand le chat est sorti, Delon l'a vu, et moi je ne le connaissais pas Delon, il est venu me trouver, il me dit, si on faisait un sujet ensemble, il me dit, pourquoi pas un Simenon? Et comme je connaissais quand même Simenon, je le connais pas par cœur, hein. Quelquefois je mélange, mais il suffit que j'en lise 2 ou 3 lignes, taf, tout le roman me revient, tellement je les ai lus, relus et aimés. J'ai tout de suite pensé à la veuve Coudert. Et puis aussi, la veuve Coudert, j'aimais parce qu'il y avait des péniches qui passaient dans des champs. Moi, je fais un film quelquefois rien que pour une image comme ça. Après, je m'intéresse au personnage. Après, la dramaturgie. Mais c'est toujours au début pour... Ce que j'aimais dans le chat, c'était en fait ce pavillon perdu que moi, j'ai transposé complètement. Hein. Chez Simenon, ça se passait dans une petite banlieue bien pépère. Moi, je l'ai mis au milieu des travaux de la Défense. Enfin, ça changeait dans un autre contexte. Enfin, c'est pas trahir, ça, c'est... Et puis bon, la veuve Coudert s'est fait avec Delon, et puis Madame Romy Schneider est venue me trouver un jour au studio où je prenais un thé, et où je montais d'ailleurs la veuve Coudert, elle m'a dit, c'est vous qui avez fait le chat? Je dis oui. Elle me dit, si on faisait un film ensemble... C'est comme ça que les choses se passent dans le métier. Et je lui ai dit, mais j'ai pas de sujet. Elle m'a dit, bah trouvez-en un. Sur ce ton-là, d'ailleurs, ça a été très, très comme ça au début. Dans les premières relations avec Romy, elle était très, très, très pète-sec. Mais je crois que c'était parti militer, en fait. Après, ça s'arrangeait. Et là, je suis rentré chez moi, et là, j'ai tout Simenon, là, vous pourrez voir, dans le salon, là, dans un truc relié. Alors j'ai fait tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac, parce que j'étais pris dans ce truc Simenon. En plus, les critiques étaient élogieuses, et puis j'avais l'impression que ça me collait bien. Tout d'un coup, il y a des films que je faisais assez facilement. Puis en même temps, je trahissais allègrement Simenon au point de vue dramaturgique, quelquefois les personnages. Mais enfin, on retrouvait toujours l'atmosphère de Simenon dedans. Alors j'étais plutôt content. Et j'ai vu le train, et je me suis souvenu, j'ai dit, le train, c'est l'histoire de cette jeune juive qui fuit pendant l'occupation. Et comme j'avais fait l'occupation moi-même, je suis assez vieux pour ça, mais enfant, ça m'a intéressé de refaire cette époque. Mais dans une dramaturgie tout à fait différente, évidemment. Voilà, c'est un enchaînement. L'Étoile du Nord, je ne sais plus pourquoi j'ai eu envie de faire ça. D'ailleurs, j'ai dit, si pour faire un film avec Simone, on voulait refaire un film ensemble, c'est elle qui m'a dit, on va bien trouver quelque chose dans Simenon. Alors on a cherché, puis j'ai aussi beaucoup changé là, le roman, en fait, ça s'appelait Le Locataire. Mais le titre était pris par Polanski, alors j'ai appelé L'Étoile du Nord, qui est le sujet d'une autre nouvelle de Simenon. Enfin bon, j'en suis là, hein. C'est tout, 4 Simenon, c'est pas énorme. Sur 30 films, c'est pas énorme.
Morel m'a dit que vous cherchiez un secrétaire.
De qui cherchez un secrétaire?
Maître Morel ne m'a pas dit non. Il m'a dit de me présenter à cette adresse à 9h.
Comment vous appelez-vous?
Michel Maudet.
Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil, là?
Vous allez sans doute pas me croire, mais je suis tombé dans mon escalier.
Il y a longtemps que vous crevez de faim? Enfin, je veux dire que vous cherchez une situation?
Non, j'ai perdu la mienne il y a 15 jours. J'étais secrétaire d'une chanteuse très connue.
Ah, vous avez tant changé souvent. Vous tapez la machine?
Oui.
C'était nous?
Oui, un petit peu. Enfin, suffisamment, je pense.
Vous avez fait votre service militaire?
Oui, oui.
Dans les paras, bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Parce que je vous imagine mal dans l'intendance avec un nez pareil. Bien que une chute dans l'escalier soit toujours possible.
Non, non, ça, c'est un souvenir d'avant mon service. J'ai fait de la boxe en amateur.
Asseyez-vous. Vous êtes sûr de ne pas connaître mon nom?
Absolument.
Je m'appelle Ferchaud. Dieudonné Ferchaud, l'aîné des frères Ferchaud. Vous êtes au courant, je suppose.
Je comprends maintenant.
Qu'est-ce que vous comprenez?
L'annonce disait « pouvant voyager ».
Et vous pouvez voyager?
Oui.
Tout de suite?
Tout de suite.
Ce qui caractérise Simenon, c'est essentiellement d'abord un ton, donc une couleur. C'est peut-être paradoxal de dire ça en parlant de Simenon. Mais cette couleur, c'est le gris, c'est le terne, c'est le sombre, c'est toutes les couleurs intermédiaires. C'est jamais éclatant chez lui, c'est jamais criard, c'est jamais bariolé. Donc c'est ce qui caractérise, me semble-t-il, l'univers de Simenon. C'est d'abord un ton. Ensuite, ce sont des décors. C'est-à-dire qu'il y a une extraordinaire présence des lieux dans son œuvre, qui sont même parfois reproduits presque de façon entre guillemets touristique, et qu'on peut les repérer, on peut suivre l'itinéraire des ouvrages de Simenon de manière physique. Et puis surtout, ce sont des personnages, évidemment. Je pense que c'est ça qui fait sa force, sa vigueur. Alors ce sont des personnages 9 fois sur 10 en crise. Et 9 fois sur 10 aussi en crise négative, mais il n'y a pas que des personnages négatifs dans le Simenon. Je pense qu'aussi c'est une erreur qu'on a trop tendance à commettre, de ne voir dans son œuvre que les personnages négatifs. De même qu'on a trop tendance aussi à penser que lorsqu'il campe des femmes, elles sont toujours très, très méchantes, très féroces, et que Simenon, par la même, est un misogyne. Il y a des romans relativement lumineux chez lui. Je pense à Tantjane, par exemple, qui est un roman relativement positif. Et puis, je pense qu'il y a un aspect qu'on néglige relativement peu, mais qu'on est en train de découvrir, qui est aussi paradoxal, peut-être, surtout si on connaît l'œuvre de Simenon et son itinéraire personnel, c'est le côté rédemptoire. C'est une chose qu'on ne dit pas souvent. Je pense que dans leur crise, les personnages se sauvent. Et que c'est acculé à des désastres, à des malheurs, qu'ils deviennent des héros, presque au sens chrétien du terme.
Il se sauve comment, Ferchaud, l'aîné?
Mais il se sauve pas.
Ah.
Il se sauve pas, non, mais là, c'est un exemple contraire. Mais parfois, on peut se demander jusqu'à quel point... Dans Le Petit Saint, par exemple, le titre est très évocateur. Il n'a pas été adapté au cinéma, ce film. Le titre est incroyable. Pourquoi Le Petit Saint, de la part de quelqu'un qui se déclarait mécréant et athée, et qui n'avait de cesse que de dilapider, je dirais, l'acquis de son enfance. Il y a un côté rédemption, je trouve, dans le premier livre. Moi, c'est un aspect que je suis en train de découvrir. Et je pense qu'on a eu trop tendance à gommer à travers toute son œuvre. Mais ce qu'il faut dire, me semble-t-il, si je peux me permettre d'ajouter la chose, c'est que il ne faut pas chercher dans les films forcément ce qu'on trouve dans les romans. Alors je ferai une distinction. Je dirais qu'il y a deux types de films, ou plus exactement, il y a deux types de cinéastes. Il y a d'une part des cinéastes qui se sont intéressés à Simenon parce qu'au fond, Simenon est un grand conteur. Il raconte des histoires. Et on peut penser naïvement que ces histoires sont des scénarios tout faits, tout préparés. Alors ces gens-là se sont intéressés à des intrigues avec des articulations de scènes qui se suivent et qui racontent une histoire. Et puis il y a d'autres cinéastes qui ont préféré essayer de reconstituer à travers un roman de Simenon, je dirais, cette fameuse atmosphère. Il faut bien qu'on emploie ce mot, parce que je pense qu'il, même s'il est galvaudé, il dit bien ce qu'il veut dire concernant Simenon. Et je constate que chez ces cinéastes-là, il y a souvent des films finalement très simenoniens.
Il est rentré, mais il est reparti, avec sa valise et son instrument. Et il avait l'air de celui qui a un train à prendre. Et il m'a dit que je pouvais disposer du studio.
Il était impensable de faire autrement. Je veux dire, quand on adapte Simenon, il faut absolument suivre. Bon, étant donné que c'est une écriture quasi automatique, vous savez que Simenon écrivait ses livres en une dizaine, bon, il les rectifiait ensuite, mais il écrivait ses livres en une dizaine de jours. Donc, il est très dangereux d'essayer d'être plus malin que lui au niveau de la construction, parce que on se trompe tout le temps. Donc, il faut essayer de respecter la manière dont c'est construit. Et donc, des problèmes se posent qui sont effectivement des problèmes de transposition de la littérature à l'image. Cela étant dit, moi, sans aucune prétention, croyez-moi, je trouve que Betty le film est meilleur que Betty le livre pour une raison simple. C'est que je crois que Simenon a fait davantage un scénario qu'un roman. Et un scénario d'un genre complètement original, mais les problèmes qui assez complexes, vraisemblablement auxquels il s'est heurté pendant l'écriture du livre, finalement étaient pour moi, au contraire, des atouts. Et c'est pour ça que je pense que c'était un scénario sans qu'il le sache.
Vous écrivez, je sous-signais Elisabeth Étemble.
Elle a écrit Betty, maître.
Ah non, pas Betty, Elisabeth. Je sous-signais Elisabeth Étemble, née Fayet, 28 ans sans profession, demeurant 6 avenue Ruisdel à Paris, reconnaît par la présente, acceptée sans réserve, les conditions qui me sont proposées.
Je les ai vendues.
Quoi donc, Betty?
Je dois me souvenir, excusez-moi.
Bien sûr.
Quant à faire le principe des flashbacks ou des flashs de souvenirs comme ça, je crois que dans Simenon, c'est absolument indispensable, presque dans tous. Enfin, j'ai même dans ma tête, je n'ai pas de... Peut-être exception de quelques Maigret, encore je n'en suis pas sûr, mais le principe de Simenon, c'est la plongée quand même. On plonge dans quelque chose et il faut respecter cette donnée. Si on ne la respecte pas, je crois qu'on trahit.
Il vient ici presque tous les soirs.
Tout écrit comme vous voulez, hein. J'ai marqué Elisabeth à la place de Betty, puis j'ai pris le chèque. Vous en foutez, vous en foutez.
Au revoir.
le cinéma ne peut parler que ou du présent ou du passé. Il lui est très difficile de faire dans la même image le passé et le présent, sauf à juxtaposer, ce qui a été fait également. Mais quand on lit Simenon, on peut prendre n'importe quel livre de Simenon, et même dès le premier chapitre, dès la première page, et on peut dire dès la première ligne, Simenon va passer sans arrêt du passé au présent et quelquefois au futur. C'est-à-dire que on est au présent et petit à petit on fait de plus en plus d'incursions dans le passé du personnage pour nous l'expliquer. Quelquefois il y a des dérapages vers le futur, qu'est-ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que le temps chez Simenon n'est jamais véritablement défini, ce qui fait la magie de son écriture d'ailleurs, ce qui fait que son écriture est absolument, on est porté par son écriture, on ne sait plus comment on est porté effectivement à s'identifier au personnage principal, on est envahi par le flux qui le porte et qui comme nous tous dans une même journée, avons des afflux ou des flux du passé qui nous reviennent à la tête, et puis également des sauts en avant. Tout ça coexiste chez Simenon, quelquefois dans la même phrase, quelquefois dans la même ligne, et souvent dans la même page. C'est très difficile au cinéma, où le cinéma est beaucoup plus linéaire et est obligé de mettre à plat.
Je pense qu'il y a quasiment à mes yeux une impossibilité de mettre en image l'œuvre de Simenon. C'est le paradoxe, c'est le cinéaste qui était le plus souvent mis à l'écran. Je crois qu'on totalise 50 à 60 longs métrages, et là je ne parle pas de tous les téléfilms nombreux aussi bien en France que dans d'autres pays à partir de Maigret, donc je pense qu'il doit y avoir à peu près 200 films, téléfilms compris. Alors ça pose la question de savoir pourquoi tant de cinéastes se sont intéressés à Simenon alors qu'il est si peu cinématographique finalement, puisque l'essentiel chez lui se trouve dans les mots, se trouve entre les mots, se trouve dans les atmosphères, se trouve dans les crises, se trouve dans les personnages. Donc ça pose finalement le problème de se dire, est-ce que lorsqu'on a affaire à un vrai romancier, au vrai sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un ton, chez qui les mots ont une valeur primordiale, essentielle, et qui ne sont pas des faiseurs, ce ne sont pas des gens qui se servent des mots pour parler d'autres choses, est-ce que ces gens-là sont proches du langage de l'image tel que le cinéma, la chemine et le véhicule depuis sa création.
On se dit c'est inadaptable, parce qu'en général, sinon ça consiste en des flashbacks, ça consiste en une inaction très peu active d'ailleurs, soyons justes, mais surtout psychologique, et avec sans arrêt le héros qui se dit « est-ce que j'étais enrhumé ce jour-là » ou « est-ce que c'était le jour où Tante Lucie était venue ?»« Comment voulez-vous filmer ça ?» Enfin, c'est très difficile, il faut refaire toute la dramaturgie. Donc c'est toute une réécriture au cours de laquelle les personnages changent. La veuve Coudert, par exemple, j'ai changé toute la fin. Parce que la veuve Coudert, la fin était... Je la trouvais terrifiante, sordide. C'était un voyou d'abord, c'était pas du tout un anarchiste comme je l'ai fait, le Delon. Et il l'a assassiné à coup de marteau, la fermière. Et en changeant ça, on change forcément un peu les personnages. J'en ai fait un film d'amour et ils meurent ensemble, tués par les forces de l'ordre, à cause de lui naturellement. Il reste toujours quand même l'idée initiale que l'homme a amené le destin et l'amour et le destin tragique que va avoir cette fermière qui ne fait pas avoir ce genre de risque en principe.
C'est un peu dommage quand même d'avoir trahi Simenon là. Oui.
Mais je trouve que ça abîme pas son livre, non ? On peut le relire. Et lui, vous croyez qu'il n'aurait pas trahi s'il avait pu ?
Il pleut sur la ville. Sur les toits qui dégoulinent et sur les jardins inondés. Il pleut sur la ville. Les silhouettes des arbres s'estompent derrière le voile tremblant de la pluie silencieuse. Il pleut sur la ville. La province frissonne et se ferme sous l'averse. Il pleut sur la ville et au milieu de ce déluge, la cathédrale a l'air d'un navire battu par la tempête. Dans les petites rues, les enseignes reçoivent l'eau du ciel. Vous avez vu l'énorme chapeau rouge de chez Bluchet tout dégouttant de pluie ? L'averse redouble, les ruisseaux débordent, les passants se hâtent sans détourner la tête. Et voici le chronomètre géant de chez Tellier qui ruisselle de partout. Un peu plus loin, vous allez voir la tête de cheval doré de la boucherie hypophagique. La voilà, triste et morne. Elle si fière quand elle étincelle au soleil. Mais aujourd'hui, tout s'éteint sous la douche glacée. Il pleut sur la ville. Ce qui siffle ainsi derrière les maisons, c'est le train omnibus qui remonte sur Paris avec à peine 10 voyageurs dedans. Au coin de cette rue, pour notaires et avoués, voici la maison des Loursas, de Saint-Marc. Dans la salle à manger du premier étage, maître Hector Loursa mange son potage en face de sa fille Nicole. Maître Hector Loursa n'est ni avoué ni huissier, il est avocat. Avocat in partibus, car voilà 20 ans qu'il ne plaide plus. Il a renoncé au barreau le jour où sa femme l'a quitté pour un autre. Il a renoncé à vivre par la même occasion.
Angèle, la suite.
Fine. Fine!
La grande vogue de Simenon au cinéma démarre précisément au moment de l'occupation et notamment avec la vente de droits de The Film à la Continental, qui était une firme allemande, incontestablement, enfin avec des collaborateurs artistiques français, qui a produit à peu près 30 des 220 films qui ont été produits sous l'occupation. Et bon, Simenon, c'est vrai qu'il a toujours eu l'envie de bouger, mais pourquoi est-il parti au Canada puis aux États-Unis? On sait maintenant, c'est qu'il a voulu mettre un peu de distance au moment de l'épuration et avec les retombées de toute cette période.
Qu'est-ce qu'il
fait ? Alors, ce que je crois qu'il faut dire, qu'il y a un film très important, c'est le film le plus important de la Continental, enfin, d'un point de vue siménonien, c'est le fameux Les Inconnus dans la maison.
De Clouzot.
Oui, vous avez parfaitement raison de dire de Clouzot. J'entends par là que c'est un film écrit, adapté, écrit par Clouzot et qui est réalisé par Henri Decoing. Mais c'est évident que maintenant, plus on revoit le film, plus on retrouve la patte de Clouzot, qui n'était pas encore le réalisateur du Corbeau, mais qui était déjà un homme qui était en pleine ascension. Et à partir du roman Les Inconnus dans la maison, Clouzot élabore littéralement un scénario original. Alors c'est vrai que le film a eu un énorme succès en 1942. C'est un réquisitoire absolument implacable contre la Troisième République. C'est un film qui a été reçu comme, sinon vichyste ou vichysois, comme pétiniste, incontestablement. C'était un film qui rappelait à l'ordre, donc à l'ordre et pourquoi pas à la Révolution nationale. C'est vrai qu'en 1942, des oreilles complaisantes ont pu penser que c'était un film pétiniste.
L'évasion ! Voilà ce que cherchaient ces enfants écœurés par l'image de la bourgeoisie qu'ils trouvaient chez eux. Ils étaient prêts à faire n'importe quelle sottise pour se libérer d'un conformisme étouffant. Monsieur le Président a dit à l'un d'eux, mais quand vous sortiez de chez vous, vous trouviez des distractions ? Vraiment. Messieurs les jurés, pouvez-vous m'indiquer la route du stade, du vélodrome, le chemin de la piscine? Non, ne cherchez pas. Il n'y a ni stade, ni vélodrome, ni piscine. Il y a 132 cafés et bistrots. Je les ai comptés. Et 4 bordels. Cela, je ne les ai pas comptés. Tous mes concitoyens les y ont repérés depuis longtemps. Messieurs, quand les enfants ne peuvent pas se saouler de grand air et de vitesse, il faut bien qu'ils aient usé leurs nerfs quelque part. Ils vont au cinéma. Et là, ils se pâment devant les performances de Tintin, le bel effet. Quand ils ne s'excitent pas sur les jambes de la star ou de la vampe. Et un beau jour ou une belle nuit de spectateurs, ces enfants deviennent des acteurs et ils se couvrent de sang. Eh bien, ce manteau de sang, c'est vous, c'est nous qui leur avons jeté sur les épaules. J'ai terminé.
Quand monsieur et madame Maigret vont au cinéma, que vont-ils voir, Claude Gotter ?
Je crois qu'ils vont assez peu au cinéma. Hein. Je veux dire, ils aiment le cinéma commercial et ils aiment surtout Maigret. Enfin, sinon, on raconte que Maigret aime beaucoup l'ambiance qu'il y a au cinéma. Et c'est là où on touche à quelque chose d'important, je crois, c'est Simenon, c'est que son œuvre est relativement datée. C'est-à-dire que Maigret, qui débute dans les années 30 et qui finit dans les années 70, enfin, il y a 40 ans d'écriture d'une centaine de Maigret. Maigret vieillit très peu entre les deux. Donc, c'est une espèce de cinéma français où on va voir aussi quelques films américains dans les cinémas de quartier. Ils aiment beaucoup justement le cinéma populaire, une salle qui réagit, ils aiment l'entracte avec les bonbons, quelquefois des attractions, tout ça. Ça nous renvoie effectivement à un cinéma ou des années d'avant-guerre ou d'après la Libération.
Décortiquer cette image de la nuit du carrefour.
C'est effectivement peut-être la première fois au cinéma qu'on voit une image du bureau de Maigret et une image de ce qui pouvait être un interrogatoire à la PJ à l'époque.
Vous pouvez décrire cette table ?
Oui, attendez, j'ai...
La lumière.
Oui. Non, c'est surtout, on a l'impression. Enfin, est-ce que c'est ce que vous voulez me faire dire? Il y a les sandwichs, il y a les fameux bières. On essaye de mettre à l'aise le présumé coupable. Ce qui est très frappant quand vous me demandez ça, c'est que c'est vraiment très 1930. Hein, c'est pas du tout les Maigret qu'on verra après. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit que c'est Maigret 1930, alors qu'il est évident que les Maigret de Gabin sont les Maigret des années 50. L'ameublement, les vêtements, tout ça, la façon de traiter les gens. Là, il y a une certaine urbanité quand même. Enfin, on est...
Une grande épure.
Oui, absolument. Alors là, bien que la photo, malheureusement, enfin la reproduction ne soit pas... Mais le noir et blanc, quand il existe, il est superbe dans la nuit du carrefour.
J'ai surtout des sons. La pluie, fondamentalement la nuit du carrefour, c'est donc la nuit évidemment, c'est un carrefour évidemment. Donc c'est le bruit des voitures, c'est les pneus qui chointent, c'est le bruit des essuie-glaces. C'est une atmosphère extraordinairement sonore et avec Pierre Renoir, qui est pour moi le meilleur
des Maigret.
Des Maigret, de très loin.
Gérard Guégan.
C'est sans doute la magie du noir et blanc, c'est la magie aussi d'une photo très expressionniste et très, très griffite. Parce qu'en fait, en même temps, c'est magique, Simenon. Et Renoir l'avait très bien senti. Et donc, il n'y avait rien du tout de policier dans ce film. On ne comprenait rien d'abord. Moi, je l'ai vu à la Cinémathèque plusieurs fois à l'époque. Avec Rivette qui adorait ça, parce que Rivette était un grand lecteur de Simenon. Il n'a jamais tourné, ce qui est dommage. Et il y avait, je me souviens, une femme avec un manteau, avec un grand col de fourrure blanche, le visage était noyé dans la fourrure. Et pour moi, c'est ça, Simenon. C'est ces personnages de femmes troubles et troublantes qui passent comme ça dans le lointain.
Pour connaître un jour l'étreinte qui rive éternellement, j'ai quitté tout sans crainte et je suis parti follement. Et j'ai cherché le visage de l'amour que j'ai rêvé sur chaque être de passage et je ne l'ai pas trouvé.
Vous rappelez de séquence?
Oui, parce qu'il y a quand même une chose très importante dans la nuit du Carrefour, c'est l'interprétation, notamment l'interprétation d'Elsa par Vina Winfried, qui était une jeune Danoise que l'on connaissait dans les milieux du cinéma à l'époque, qui était blonde, à la peau blanche, avec un accent un peu allemand pour nous, aux oreilles françaises, et qui, incontestablement, était extrêmement troublante, d'un érotisme très réel, et c'est également dans le roman, mais Renoir l'a très fortement accentué. Et Tasma et Bourdet et Crémer l'ont très fortement souligné dans leur adaptation également. Maigret, qui est la chasteté même et dont on imagine mal qu'il ait des rapports sexuels avec Madame Maigret, puisque c'est un vieux couple, deux vieux chats, un vieux chat et une vieille chatte qui vivent en bonne intelligence. Dans La Nuit du Carrefour, c'est à peu près le seul roman, et alors c'est le seul film où on voit Maigret sur le point de succomber. À la limite, même chez Renoir, il y a une ellipse, on peut imaginer qu'il aurait consommé avec Elsa, mais c'est vrai qu'il y a un trouble.
Alors Maigret arrive au carrefour des trois veuves. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est le premier film, hein. c'est le premier film tiré de l'œuvre de Simenon, qui est donc la nuit du carrefour de Jean Renoir, dont on dit que Simenon a certainement supervisé plus ou moins l'adaptation de Renoir. Et là, il se passe une chose assez curieuse, c'est que dès ce premier film, on va parler d'atmosphère simenonienne, c'est-à-dire que le film est tourné pratiquement entièrement la nuit. C'est vrai qu'il y a des plans où on ne voit pas grand-chose, il pleut, il fait froid, il y a du brouillard, il y a du crachin, enfin le film est tourné dans une lumière très noire. Or, à l'époque, l'atmosphère de Simenon se réduisait quand même à quelques livres, et si vous lisez le roman, vous apercevez qu'il ne se passe pas dans les mêmes conditions atmosphériques. Ça se trouve que Renoir a tourné, il faisait un temps épouvantable et il en a profité. Et on va dire que c'est l'atmosphère de Simenon, c'est prodigieux. Renoir a retrouvé l'atmosphère de Simenon. Renoir a donné l'équivalence plastique de l'atmosphère de Simenon. Or, il y a eu un remake de La Nuit du Carrefour. Il y en avait eu un, enfin, qui avait été fait avec Jean Richard dans les années 60-70. Et là, il y a eu un remake très récent, donc où Maigret est interprété par Bruno Kremer, qui était mis en scène par Alain Tasma et dont l'adaptation était de Gildas Bourdet. Et il était extrêmement intéressant parce qu'à la limite, il était beaucoup plus fidèle au roman de Simenon que Renoir, parce que là, le ciel était bleu. Ça se passait, je crois, à la fin de l'hiver ou au printemps, il y avait un temps très frais, très sec, il y avait un soleil, on voyait le vert de l'herbe, on voyait le bleu du ciel. C'était donc très étonnant, et ce qui devient à la fois mythique et mythologique dans le cas de Renoir, c'est que il a, en quelque sorte, érigé ou édifié les règles d'une atmosphère dite simenonienne, alors que elle n'est pas encore vraiment dans les romans.
Ce qui importe ici, c'est le ton, c'est-à-dire une narration toute diffuse, toute en demi-teinte, avec une histoire qui, je dirais, s'escamote tout le temps. Chez Renoir, il y a une opacité volontaire. Et cette opacité volontaire, au fond, c'est le monde de Simenon.
La fameuse atmosphère de Simenon, comment est-ce qu'on la rend? Comment est-ce que vous l'avez rendue?
Bon, on la rend pratiquement, c'est presque technique, je dois dire. Oui, vous savez, vous prenez une rue à la tombée de la nuit, vous mettez trois petites lumières dans le fond et vous faites passer un personnage dans l'ombre, vous avez déjà une atmosphère. Simenon, je dois dire que les trucs d'atmosphère de Simenon, la sciure dans les bistrots, c'est presque des petits trucs techniques aussi chez lui. Hein. Ça correspondait à des souvenirs, ça correspondait à des décors dont il se souvenait, mais il y avait quand même un petit un peu de trucs techniques. Et là, moi, c'est pareil. Je sais que c'est difficile parce que ça nécessite un éclairage, un décor fait pour. Et ça, je me souviens avoir eu le problème dans l'Étoile du Nord, c'est que j'avais réussi à créer cette pension de famille belge, et puis qu'il y avait Madame Signoret dedans, et c'était une époque où Simone avait les yeux très très petits, on ne les voyait pas. Or, pour faire une atmosphère dans un décor, c'est-à-dire avec des recoins un peu ombrés, ce qui fait l'atmosphère, c'est au fond la lumière. C'est donc tout un travail technique très difficile, et c'est très difficile d'éclairer les acteurs en même temps. Alors en général, les acteurs sont pas très contents parce qu'ils savent que quand on crée une atmosphère dans un décor, ils vont en pâtir quelque part. Et j'ai eu un problème dans l'Étoile du Nord, ils n'arrivaient pas à éclairer Simone dans le décor d'atmosphère. Et là, il a fallu choisir et j'ai pas laissé le choix, j'ai dit il faut faire les deux. Et finalement, on s'en est quand même tiré, mais au bénéfice du décor quand même, il faut être juste.
La concierge tout sauta avant de frapper, articula en regardant le catalogue de la belle jardinière qu'elle tenait à la main. « C'est une lettre pour vous, monsieur Hir. » Et elle serra son châle sur sa poitrine. On bougea derrière la porte brune. C'était tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt des pas, tantôt un froissement mou de tissu ou le heurt de faïence, et les yeux gris de la concierge semblaient, à travers le panneau, suivre à la piste le bruit invisible. Celui-ci se rapprocha enfin, la clé tourna, un rectangle de lumière apparut, une tapisserie à fleurs jaunes, le marbre du lavabo, un homme tendit la main, mais la concierge ne le vit pas, ou le vit mal, en tout cas, n'y prit pas garde, parce que son regard fureteur s'était accroché à un autre objet, une serviette imbibée de sang dont le rouge sombre tranchait sur le froid du marbre. Alors, vous voyez, là, il y a la concierge. Tout de suite.
Ça commence bien, c'est un bon début de roman.
Oui, 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 oui. Oh, ben ça, il a toujours des ouvertures, parce que c'est un bon début, parce qu'il y a déjà la concierge, il y a du sang, il y a des portiers s'ouvrent des pas. D'un... Alors tu dis, tiens, qu'est-ce qui se passe là-dedans, hein, c'est ça.
Il y a un cadavre dans le terrain vague.
Quoi?
Il y a un cadavre dans le terrain vague.
Jésus-Marie!
Oh mon Dieu, j'y vais, je reviens.
Attendez-moi. Jérôme,
vas-y,
tu me raconteras
tout ce qui se passe. Vous avez entendu, monsieur Hir? Dans notre quartier.
Alphonse Boudard.
Monsieur Hir, il y a eu deux adaptations, hein. Il y a comment il l'appelait, Panique, le premier, du Vivier. Panique...
Vous nous le racontez un petit peu, vous l'avez vu?
Panique?
Oui.
Oui, alors, évidemment, le monsieur Hir, deuxième formule, est plus près du livre, et il est plus sérieux. Mais le premier avait un monstre, un autre monstre, c'était Michel Simon. Et donc, du Vivier... Ambiance après-guerre avec Vivienne Romance. Alors il y avait des atouts pour aller voir ce truc-là. En plus, à ce moment-là, comme c'était après la libération, il y a l'espèce de lynchage de Monsieur Hir à la fin, qui rappelait ce qui s'était passé dans l'époque de la libération. Donc le film avait été un peu mal perçu par certains critiques. On avait dit, tiens, il essaie de viser ça à travers ce film. Alors, il est moins bon, mais il a plus de charme.
Voici ma mère, une femme excellente. Elle m'a toujours préféré mon frère. Il était plus joli. Le don de plaire m'a toujours manqué, même à mes parents. À l'école, au régiment, à l'université, mes camarades m'ont toujours tenu à l'écart. Ce n'est pas moi qui ai choisi de vivre en solitaire. C'est eux qui se sont dérobés. Et pourtant, je me suis marié.
C'est votre femme? Oh, elle était belle.
À toutes ces photos, une seule légende. Bonheur. Biarritz, Monte Carlo, la Bretagne, la Hollande.
Et elle partout, toujours.
Toujours belle. Mais je ne suis pas sur la photo, j'opérais. Ainsi, je les ai réunis pour la première fois, elle et lui.
Elle vous aimait?
Premier ami, seul ami.
Et c'est tout?
Ça s'arrête là, brusquement. C'est pas normal, n'est-ce pas, que la vie me comble à tout un coup du plus précieux. Un grand amour, une grande amitié. Je les ai perdus d'un coup.
Mais il y a d'autres photographies.
D'un genre bien différent. Ça, c'est le musée des horreurs. Un clochard mort de froid devant l'Arc de Triomphe. Une petite fille qui rit, mais elle est folle parce qu'elle a reçu un coup de tisonnier derrière l'oreille. Une femme saoule. Les gueules de misère. La honte, le vice, le crime. Une belle série d'instantanés que j'ai pris, tiré et collé moi-même. Mon album de famille.
Mais pourquoi?
Pour être sûr, en le feuilletant, de ne plus jamais m'attendrir. Pendant 10 ans, j'ai vécu dans des livres. Ils ne fréquentent plus que les morts. Eux ne peuvent plus trahir. Je me croyais sauvé à l'abri hors du monde, et puis je vous ai rencontré. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alice, voulez-vous que cette maison devienne la vôtre? Il ne faut surtout pas que vous ayez pitié de moi. Réfléchissez bien avant de me répondre. Ne faites pas de mal inutilement.
Vous êtes tendre, vous êtes bon. Je connais assez la vie pour savoir ce que ça représente. Alors, ce soir, mettez votre chambre en ordre, je vous apporterai ma réponse. Je gratterai à la porte comme une petite souris. Vous voulez bien attendre jusqu'à ce soir?
Bien. Je souscris à Panique 100%. Je trouve que Duvivier a fait un film précisément extrêmement simenonien. Alors que je ne dis pas que le film de Lecomte n'est pas satisfaisant, mais je pense qu'il n'est pas simenonien. C'est un film, finalement, qui, on a l'impression qu'il raconte un roman de Patricia Highsmith, qui est aussi, par ailleurs, une très grande romancière. Le personnage de Yves ressemble à M. Ripley, c'est un personnage torve, louche, comme ça, alors que le personnage qu'incarne Michel Simon n'est pas un personnage torve, c'est un torturé, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, et dont le véritable problème, c'est l'impossibilité d'aimer. Et je trouve que c'est impossible d'aimer à travers ce personnage-là, apparaît d'une façon extrêmement grandiose, enfin. Et d'être aimé, oui. En plus, le conte, me semble-t-il, dépeint relativement mal le personnage féminin. Lui donne comme ça une sorte de fausse inquiétude. Alors ça, c'est justement l'inverse. Alors que dans Panique, c'est une véritable garce. Ici, c'est pas une garce, c'est...
Et dans le roman?
Dans le roman, c'est une garce. Dans le roman, c'est une véritable garce, oui, oui.
Alors, monsieur, là, ben alors, circulez. Circulez, c'est fini. Rentrez chez vous, allons. Allez, en avant la musique. Tu perds de l'argent, mon vieux, allons.
Allez, Charles, vas-y, mais en route.
Circulez, monsieur, dames.
Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera?
Je voudrais un roudoudou et 3 sous, Mme Tatin.
Jules Maigret, c'est pourtant pas toi.
Eh ben c'est pourtant moi, la Marie.
Qu'est-ce que tu reviens trafiquer par chez nous après tout ce temps?
Te voir.
Oh, me regarde pas trop. C'est pas que j'ai jamais été affolante, mais... avec les années. Tu vois quelque chose?
Oui, un petit blanc.
T'as pas tellement changé. Les yeux bleus, ça conserve.
Eh ben.
Si c'est le petit moulinois que tu cherches, celui-là, c'est celui d'hier. Celui d'aujourd'hui...
arrivera par le quart d'Auguste à 11h. T'as le téléphone maintenant?
Oui, là derrière.
Donnez-moi le 54 à Moulin. Tiens, Marie, pendant que j'y pense, mets-moi donc un savon à barbe de côté.
Dire que j'ai connu ça en culotte courte et ça de la barbe.
Allô, le petit moulinois. Je voudrais parler au chef des informations, s'il vous plaît. Allô, ici le commissaire Maigret de la police judiciaire.
Est-ce qu'il y a de l'humour dans le roman de Simenon, est-ce qu'il y en a? Gérard Mordillat.
Non, dans le roman de Simenon, il n'y en a pas, je crois.
Dans mon film, il y en a sur des petits détails, des choses assez amusantes. Justement, quand Cardino retourne dans sa famille qui habite un HLM, il gare sa voiture, qui est une belle voiture. Il y a là des enfants du coin qui jouent au foot. Il en appelle un et il lui dit « Toi, si ma voiture est rayée ou s'il manque quelque chose, je te casse la gueule. » Et il s'en va. Et le môme reste au garde à vous devant la voiture. C'est ce type d'humour un peu furieux, mais qui existe dans le film.
Si Le Fils Cardino avait été commandé pour le cinéma, est-ce que vous auriez fait le même film ?
Enfin, je pense que j'aurais fait le même film, mais je ne sais pas si c'est possible. Parce que la grande idée de Pierre Grimblat, quand il a fait L'Heure Simenon, c'était de faire des choses d'une heure. Eh bien, la plupart des romans de Simenon ont dans le ventre une heure de cinéma, et pas plus. Et c'est pour ça que très souvent, malheureusement, les adaptations de Simenon au cinéma sont assez assommantes. Parce que sous prétexte de faire le climat, comme on dit, on a des plans interminables où il ne se passe rien, parce que en fait, rien ne vient du livre. La force des romans de Simenon, ce sont des petits romans. Et ce qui fait son œuvre, c'est qu'il n'a pas écrit de très longs romans, mais il en a écrit tellement que ça devient une seule et unique comédie humaine absolument extraordinaire.
C'est tourné où ?
Ça a été tourné dans la banlieue parisienne. Ne demandez pas le nom du patelin. C'était un de ces innombrables villages où toutes les maisons sont semblables. Et comme toujours dans ces endroits-là, eh bien, à 5 km de là, il y a la cité HLM qui est la précédente station, si j'ose dire. Donc ça a été tourné essentiellement à cet endroit-là.
Dans le bouquin, je crois que c'est au sable.
Oui, non, moi j'ai pas fait une chose balnéaire, j'ai fait une chose banlieue parisienne. Là, il y avait au contraire un lac artificiel, là aussi, comme on en creuse à côté. Tout ça me plaisait beaucoup, c'est-à-dire toute cette illusion contemporaine, c'est-à-dire les faux villages, les faux lacs, les faux tout, quoi. Ils étaient tous faux, et sauf le personnage joué par Camille Clavel.
Et la lumière, elle était comment ? Elle était lumineuse, ensoleillée ? Parce que Simenon, c'est aussi la pluie, le gris.
Oui, bah là aussi, j'ai fait tout le contraire, sans doute par esprit de contradiction, mais on a fait une image à la limite de la surexposition. Et en fait, avec Jean-Pierre Clèche qui avait fait les décors, et Jean-Pierre Junet qui a fait la photo, j'avais expliqué très clairement et montré certains morceaux de fresques de Fra Angelico. C'est-à-dire une lumière qui vient de tons très jaune pâle, très bleu pâle, de choses un peu évanescentes et en même temps très solides, pas du tout chichiteuses. Et donc on a cherché le film de ce côté-là, dans une très grande luminosité, une très grande couleur, comme si nous étions déjà, ou d'ores et déjà, dans une sorte de paradis, mais un paradis violent.
Après manger, tu feras ton devoir d'algèbre. Je le corrigerai, et s'il est bon, tu pourras aller jouer.
Oh non, je fais soir. Claude et Michel ont des places pour le match.
Tu feras ton algèbre. Il faut apprendre à travailler à temps. Crois-tu qu'au cabinet Mandine, je travaille aux heures qui me conviennent ? Non. Je travaille aux heures où les autres travaillent. Cette discipline, tu dois apprendre à t'y plier dès maintenant.
J'en ai marre. C'est pas juste. Tous les dimanches.
Camille, quand j'avais ton âge, les choses n'étaient pas si faciles. J'ai dû travailler durement et personne ne m'a aidé. Tu devrais être content d'avoir une belle maison, d'aller dans un cours privé, d'avoir une chambre à toi, d'avoir un papa et une maman qui te donnent tout ce que tu peux désirer.
Pour nos fronts respectueux, sous ces voiles mystérieux.
Ça commence un dimanche. Dans mon film, je me souviens plus, dans le roman, moi, ça commence un dimanche et au retour de la messe, après avoir acheté le gâteau dominical, Cardino s'aperçoit que le rôti ou le poulet brûle dans le four. Et si le rôti brûle dans le four, c'est que sa femme n'est pas là. Et il va passer tout le film et tout le roman à retrouver sa femme.
Jamais que vous, ô Jésus, nous le jurons tous. Ô Jésus, ô Jésus, nous n'aimerons jamais que vous.
En fait, j'ai pris le roman, j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai jeté. Et ensuite, je me suis souvenu de ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que j'ai fait une adaptation très infidèle dans la lettre au roman de Simenon, et je crois profondément fidèle au caractère de ces personnages. Simplement parce que son roman était situé, je ne sais plus quelle année, 47 ou en 48, qu'il y avait des tas de choses dans le roman qui étaient formidables pour le livre, parce que ça nous redisait merveilleusement cette époque, mais que moi, ça ne me disait rien et que je n'avais pas du tout envie de faire un film d'époque. J'avais envie de faire un film contemporain. Et puis ensuite, il y avait dans le caractère de Cardino quelque chose qui me touchait profondément, dans cette espèce de folie, de respectabilité, finalement. Et comment sa femme, épuisée par cette folie de respectabilité, s'en allait, elle, avec un voyou, dans une folie inverse d'irrespectabilité.
Cardino, c'est un type qui prend sa vie en main, un peu comme un maniaque qui veut la ranger comme un tiroir.
Oui, puis en tout cas, dans ma version, c'était quelqu'un qui faisait de cet embourgeoisement une sorte d'ascèse, et presque une sorte d'ascèse religieuse. C'est-à-dire que le désir de perfection sociale était une sorte de désir de perfection spirituelle, et que tout dans sa vie devait se plier à ce désir de perfection. Sa femme devait être une épouse parfaite, son fils devait être un fils parfait, ayant des résultats parfaits, chantant parfaitement à l'église, se comportant toujours parfaitement. Bon, mais ce qu'il imposait aux autres, bien évidemment, comme tous les tyrans domestiques, il ne se l'imposait pas à lui-même. Et évidemment, il était sans cesse débordé par ses propres désirs, par ses propres envies, par toutes les transgressions qui font la vie quotidienne.
Est-ce que vous dites tout comme ça dans votre film, dans votre téléfilm? Est-ce que vous soulignez toutes les choses? Ou est-ce que vous restez comme Simenon dans le non-dit? Parce que finalement, Simenon, c'est autant le non-dit que le dit.
Dans l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui découvre que sa femme est partie, qui se met à la poursuivre, laissant son fils seul à la maison. Le fils va découvrir ce qui est le secret de la vie intime de ses parents. Pendant ce temps-là, Cardino va retrouver sa femme, et la retrouvant nue au lit avec son amant, il va la ramener telle que chez lui, puisque comme ça, enfin, ils sont à égalité. Elle est aussi nue que lui l'était quand il l'a connue. Et le fils transgressera l'interdit qui l'empêchait d'aller se baigner dans la rivière ou de se baigner le dimanche. Il ira s'y baigner jusqu'au moment où on comprendra qu'il y va pour s'y noyer. Voilà... l'action telle qu'elle est, mais fidèle à Simenon, au dernier instant, au moment où l'on croit que l'enfant est mort, il réapparaît, parce que sans ça, il y aurait eu un jugement moral, et ça, il n'y a jamais ça chez Simenon, et bien entendu, je voulais garder cette chose-là.
Cinéma par Pascal Charpentier, avec Gilles Grangier, Gérard Mordilla, Pierre Granier de Fer, Claude Chabrol, Jean-Baptiste Barognan, Gérard Guégan, Claude Gauteur, Pierre Assouline et Alphonse Boudard. Groupe de réalisation, Jean-Pierre Juncker, Bruno Roncière et Claude Giovanetti.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 mai 1994. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.